Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Alors, dans le bureau, on est trois à l'avoir vu et notre perplexité a alimenté une bonne partie de notre matinée. Attention, semi-spoiler, Tristan, le réalisateur, n'a pas vu arriver le fin mot de l'histoire du vieux monsieur, moi non plus. En revanche, on a très vite compris, lui et moi, qui se cachait sous le masque noir. Ce qu'il a préféré, c'est l'épisode 6, l'épisode des billes. Amélie, la programmatrice, qui a été la première à s'y mettre, m'avait prévenu. Tu verras, c'est l'épisode où on s'attache un peu au personnage. Ouais, j'ai reçu un WhatsApp quand elle a fini la série avant moi. Tu verras, le 9, c'est le pompon. Et en effet, le 9, c'est le pompon. Moi, j'ai eu l'impression qu'on tirait toutes les grosses ficelles qui pendaient au plafond depuis le début. Bref, je vous le dis franchement, je n'ai pas été extrêmement cliente. Mes amis et collègues non plus. Mais le fait est que tout le monde en parle de ce Squid Game qui a fait le plus gros démarrage de l'histoire de Netflix. Apparemment, c'est c'est scénographié, ça c'est vrai, c'est très très gore dans un décor qui ressemble parfois à Candy Crush, bref c'est très coréen. Et voilà que les gamins, qui n'ont pas forcément vu les 9 épisodes d'ailleurs, jouent à 1, 2, 3 soleils ou lèchent des biscuits au sucre. Très loin de quelques références que l'on cherche dans nos générations respectives, Hunger Games pour les plus jeunes, Le Prix du Danger pour nous les vieux. Bien, alors est-ce qu'il faut aller chercher plus loin que la violence assez graphique de Squid Game? Est-ce que Squid Game donne matière à penser? Est-ce que c'est ça qui en fait cet immense succès? Est-ce que c'est une série de gauche, comme on a pu le lire? Une série d'anticapitalistes sur l'argent roi et l'extrême pauvreté? Une série facho où si tu suis les règles, tu vis et tu deviens riche, et tant pis pour la démocratie? Ou juste un truc gratuit, bêtement cynique, qui nous embarque comme la culture coréenne nous embarque en ce moment, en grand écart d'ailleurs, de Parasite jusqu'à la K-pop? Eh bien, c'est à vous de nous le dire. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Puisque Dominique est en voiture et qu'elle ne peut pas s'arrêter, je prends sa question dans ma voix. Un ami m'a dit-elle, de la regarder. Je l'ai dévorée ce week-end. Je trouve que c'est une fabuleuse mise en évidence de la théorie des jeux. Bon, après, c'est clairement très violent, dit-elle, et pas du tout pour les enfants. Voilà pour le premier témoignage et pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de vos appels aussi, bien sûr. Renan Cros est avec nous. Bonsoir, Renan.
Bonsoir, Fabienne.
Professeur de cinéma à l'ESSEC. Vous présentez le cercle des séries sur Canal. Marianne Chaillant est avec nous également. Bonsoir Madame Chaillant.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes professeure de philosophie spécialisée notamment de pop culture. Je le signale au passage, on est loin de Squid Game, mais allez savoir, votre prochain ouvrage s'appelle Où donc est le bonheur, et peut-être ma foi qu'il est dans Squid Game, allez savoir, aux éditions Équateur, ça sortira le 10 novembre. Moi je voudrais du coup pour commencer, puisque j'ai donné mon avis et Dominique aussi, avoir le vôtre, Renan Cros, est-ce que vous l'avez dévoré comme notre ami Dominique ou pas?
Oui, et bien malgré moi, en fait, tous mes camarades critiques de série...
C'était professionnel ou...
C'était très professionnel, parce qu'on s'est retrouvé un peu débordé par cette série qui est apparue un peu de nulle part sur Netflix. Il faut quand même raconter ça, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune promotion réelle, et que la promotion, c'est le visionnage du public qui l'a faite, et les réseaux sociaux, je pense qu'on va en reparler. Ouais, ouais. Franchement, moi j'aime pas du tout la série, j'ai un rapport presque un peu... Je me suis beaucoup engueulé avec mes camarades ce week-end, certains adorent, d'autres détestent. Moi j'ai vraiment un problème moral avec la série, ce qu'elle raconte, et j'en vois toutes les ficelles. Et en même temps, je suis fasciné par son succès, et ce que son succès dit de l'époque. J'ai l'impression qu'on est affaire à un phénomène, mais un phénomène à la fois économique, esthétique, mais aussi politique.
Et qui donne à penser ou pas, Marianne Chaillon, parce que vous m'avez amusé ce matin, vous avez tweeté vous aussi, puisque je vous ai demandé de la regarder, donc merci, vous y avez passé votre week-end, et vous avez interrogé les gens en disant, bon alors est-ce que ça donne à penser? Est-ce que ça vous a donné à penser ou est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais avec cet objet?
Eh bien, vous savez, vous connaissez peut-être cette phrase de Hegel qui dit que la chouette de Minerve prend son envol au crépuscule, c'est-à-dire que la philosophie a besoin de temps, et c'est vrai que j'en avais peu. Hein. J'ai regardé la série ce week-end, et je me suis demandé toute la journée, puisque, et donc ça veut bien dire quelque chose, c'est que ce n'était pas évident, en tout cas, s'il y avait à penser. Je suis pour l'instant assez réservée. J'ai plusieurs lectures à vous proposer, pistes d'interprétation. Évidemment, la plus évidente, c'est d'y voir une parabole sur la société coréenne elle-même, de voir une dimension sociologique de la série, puisqu'elle dénonce ses conditions de vie, cette spirale du surendettement. Ça, c'est sûrement vrai.
Et la compétition à outrance.
La question de savoir pourquoi l'engouement est mondial.
Ouais. Et la compétition à outrance, d'ailleurs, aussi. C'est très, très coréen, en fait. Et du coup, en effet, effectivement, on se demande pourquoi c'est mondial. Vous avez eu un élément de réponse ce matin, Marianne Chaillon, sur Twitter. Vous avez un Guillaume qui vous a répondu, absolument, elle donne à penser, c'est l'allégorie parfaite de notre époque, craintive où la course folle au gain nous fait prendre les mauvais choix. La référence, c'est Hobbes, la guerre de tous contre tous, l'homme mauvais par essence, insufflé par notamment le personnage du vieillard. Je vois que Renan veut intervenir, mais quand même, Marianne Chaillant, juste en un mot, vous, la philosophe, est-ce que vous avez vu du Hobbes là derrière? Est-ce que vous avez vu passer le Léviathan?
Effectivement, Guillaume spoil totalement ma progression. Il va tout droit vers la seule piste qui tient le coup, à mon avis, c'est de voir dans cette série une forme de réflexion sur la nature humaine. Ce Squid Game montrerait que on est bien loin d'une vision naïve d'une humanité bienveillante, animée par l'amour du prochain. Il y aurait en fait une inimitié naturelle entre les hommes, où règne la loi du plus fort, où la force et la ruse seraient les vertus cardinales. Il y a de nombreuses scènes qui montrent cette idée que l'homme est un loup pour l'homme. C'est possible de voir dans cette série une telle lecture, proche du philosophe Hobbes, mais dans ce cas-là, je me dis, cette série n'est qu'une variation sur un thème qui a déjà été traité. Vous parliez tout à l'heure des Hunger Games. C'est une redite. Et en plus, dans ce cas-là, si le thème de la série, c'est la nature de l'homme, moi, j'ai l'impression qu'elle fait un peu le même constat que les Hunger Games, c'est que ces jeux pervers échouent à transformer l'homme en bête sauvage et égoïste. La dernière réplique de la série, ou quasiment la dernière, c'est le héros qui appelle les organisateurs pour leur dire « Je ne suis pas un cheval, je ne suis pas la bête sauvage que vous avez bien voulu montrer. » Et d'ailleurs, pardon pour le spoil, enfin j'espère,
non, mais je vous en prie,
dans le dernier épisode, il y a cette scène avec le vieillard où ils font un pari, un dernier pari. Il y a ce SDF dans la rue et quelqu'un viendra-t-il en aide ou non à ce SDF ? C'est un pari sur le fond de la nature humaine. On voit bien que le final de la série donne cette idée que finalement, l'homme n'est pas réductible à une bête sauvage et même acculé par les dettes, par la nécessité de survivre, il est capable de ne pas être un loup pour son prochain.
Et ben voyez, Renan Cros, on peut ne pas avoir une lecture que cynique de cette série.
Ce que dit Marianne est effectivement très juste, la dimension l'homme est un loup pour l'homme, mais effectivement c'est pas très nouveau. Moi ce qui m'intéresse c'est la société du spectacle. Au fond c'est la position du spectateur. Qui regarde, nous, quand on regarde la série, quel plaisir on prend. Et alors, dans mon émission, normalement, quand on spoil, on appuie sur un bouton pour prévenir les gens. Donc, il va y avoir un grand spoiler. Dans l'épisode 2, il se passe quelque chose de très intéressant qui fait sortir les personnages du jeu et les faire revenir quasiment volontairement dans le jeu. Et pour moi, là, il y a une technique narrative qui me pose un vrai problème moral et qui pose la société du spectacle. Ces personnages ne sont plus des victimes, ce sont des victimes consentantes. Et là, tout d'un coup, le regard du spectateur, il est un tout petit peu préservé. C'est-à-dire que la cruauté, puisqu'on parle quand même d'une série dont le sujet est la cruauté, c'est-à-dire ces personnages, pour gagner de l'argent, doivent s'entretuer. Tout d'un coup, puisque leur geste devient volontaire quelque part, ou en tout cas réaffirmé par la série, eh bien notre regard de spectateur, il est safe. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu peut avoir lieu. Et je trouve qu'il y a presque une allégorie dans la série de Netflix lui-même, puisqu'il y a ce personnage donc, que vous avez cité, cet homme en noir masqué derrière des écrans qui active le jeu. Il y a l'idée de spectateur privilégié à l'intérieur. Et j'ai l'impression que cette série, elle nous fait réfléchir aussi sur le goût du spectacle. Pour moi, c'est Guy Debord plutôt, c'est la société du spectacle, jusqu'au cynisme absolu. En voyant moi la série, je pensais qu'il y a à peu près 30 ans, la critique capitaliste, c'était Fight Club de Chuck Palahniuk, je ne sais pas si vous vous souvenez, où les personnages viraient à la schizophrénie, où on voulait détruire le monde jusqu'à la schizophrénie. Aujourd'hui, la critique capitaliste, c'est devenir une victime consentante. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça, parce que, pour le coup, la série ne met jamais le système en crise et en cause, on est du point de vue du système. Et ça veut dire que Netflix, en fait, c'est le système.
Moi, j'y ai vu, vous allez m'arrêter si vous trouvez ça complètement débile, moi, j'y ai vu, au fond, une forme d'expérience de Milgram, de soumission à l'autorité, en fait. J'avais l'impression d'être aussi que c'est là-dedans qu'on essayait de m'embarquer, Marianne Chaillant.
Alors, c'était une des lectures possibles. Je m'attendais à ça avant de voir la série. Je me disais, pour vos auditeurs qui connaissent pas Milgram, c'est celui qui, après qu'Hannah Arendt ait publié ce livre Eichmann à Jérusalem, La banalité du mal, Milgram a mis au point une expérience qui tend à montrer qu'en chacun de nous sommeille un monstre potentiel. Ça, on pourrait aussi penser au film The Experiment qui a été fait à partir de l'expérience de Stanford.
Voilà. Et pour expliquer aux gens, parce qu'on le demandait, parce qu'une autorité le demandait, on mettait des décharges électriques qui étaient évidemment fausses, mais qui allaient jusqu'à une décharge qui pouvait tuer potentiellement.
Voilà. Et donc, il montrait que par soumission à l'autorité, l'homme était capable du pire. Mais je crois pas que ça soit de ça qu'il s'agisse, parce que, et du coup, peut-être en contradiction avec Renan, justement, ils sont pas, enfin, moi, je les trouve pas consentants, même quand ils reviennent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont acculés, ils sont en lutte pour leur survie. Et donc, on n'a pas affaire à des personne en situation ordinaire, comme chez Milgram. Mmh. Chez Milgram, c'est vous et moi. C'est vous et moi face à une autorité. Là, dès le départ, les dés sont pipés. Ce sont des gens qui sont en lutte pour leur survie avant même que d'entrer dans le jeu.
Mais peut-être que l'expérience de Milgram, ce sont les hommes en rouge, en fait.
Exactement, tout à fait. Alors là, oui, pour le coup.
Pour revenir sur cette question de victime, moi, je trouve que l'épisode 2, c'est pas tant une manipulation politique qu'une manipulation de spectateurs. Évidemment, on nous explique pourquoi ces personnages n'ont pas le choix. Mais en fait, ils auraient peut-être le choix aussi, puisque au fond, ce que pose comme débat la série, c'est l'argent peut se permettre de survivre à tout. Mais au fond, ce que ne pose jamais la série comme question, c'est l'impact moral qu'a toutes ces morts et tout ce jeu sur les personnages. Et c'est intéressant parce que sur Netflix, il y a une autre série japonaise qui s'appelle Alice in Borderland, qui a plus ou moins le même dispositif. C'est des personnages qui se retrouvent enfermés dans un monde, là pour le coup imaginaire, un monde de science-fiction, qui doivent jouer à des jeux pour survivre. Et le point de vue n'est pas le même. Le point de vue est toujours du point de vue des personnages qui ne comprennent pas le système. Là, je trouve que la série nous met du point de vue du système, puisque, et il y a même ce plan terrible où on est à travers les yeux de la fameuse poupée qui joue à 1, 2, 3 soleil, la caméra, et moi je parle vraiment là d'esthétique et de mise en scène, la caméra est du point de vue du bourreau en fait. Et là, tout d'un coup, moi en tant que spectateur, cette scène d'1, 2, 3 soleil, j'ai donc prolongé la série là pour mon travail. Moi, si j'étais spectateur, j'aurais arrêté de regarder la série. Pour un point de vue qui est évidemment moral, c'est-à-dire que cette représentation de la violence, je la trouve totalement gratuite et dénuée presque d'un sentiment politique derrière ça.
Yann, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben écoutez, moi je voulais juste donner mon point de vue. Alors je suis pas sérivore à la base, et je vous avoue que la preuve, Game of Thrones, je suis en train de la faire devant en fait, tout le monde, hein, et je suis à peine rendu à la moitié, mais je la dévore depuis un mois et demi. J'ai fini Squid Game en 2 jours, parce que j'ai été tellement pris par, on va dire, cet événement, ça m'a un peu sidéré, et je vous avoue que sur les 2 derniers épisodes, je vais pas spoiler rien du tout, moi. J'ai juste envie de dire que j'étais sidéré sur la fin, et je ne savais pas ce qui allait se passer. Et en fait, il y a plusieurs aspects qui...
Le gars masqué, vous l'avez pas vu venir, vous ?
Oui et non. Après, ce qui m'a un petit peu plus choqué, c'est un peu le débat qui actuellement qu'on entend dans les médias depuis 15 jours. On a beaucoup de gamins qui regardent ça. Alors ça, c'est peut-être la faute des parents qui limitent pas les écrans. Mmh. C'est un autre débat, je pense. Hein, on est d'accord. Mais en effet, quand on parlait de ce côté un petit peu capitaliste et le pouvoir de l'argent par rapport aux gens, j'ai l'impression que cette série-là, il faut en sortir un point de vue positif quand on est un peu critique, en disant à quel point on est capable en fait pour de l'argent de faire ça en fait. Est-ce qu'on préfère avoir un côté humain ou est-ce qu'on préfère avoir un côté tout simplement je me sors de ma vie et je repars avec de l'argent, voilà. Et moi c'est ça qui m'a interloqué. J'ai eu du mal à comprendre un petit peu ce qui se passait dans cette série là même si elle était dévorante, malgré tout ce côté un petit peu trash, on va dire, parce que c'est le cas. C'est inspiré de Battle Royale, de Titano, il y a un petit peu d'historique par rapport à ce cinéma un petit peu asiatique qu'on a eu depuis une vingtaine d'années, et c'est quand même interloquant en fait. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Eh ben, interloquant, c'est le mot qu'on puisse dire. Merci beaucoup pour votre question. Interloquant, est-ce qu'on le dit comme ça, Marianne Chaillan? Et pour prolonger ce que dit Yann, moi, je voudrais savoir. Alors, vous êtes prof de philo, donc vos élèves sont grands déjà. Enfin, donc, mais est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'est venu dans le cours? Et est-ce que ça peut être une matière en fait pour vous, ou en tout cas un fil à tirer, ou pas du tout?
On vient de faire un cours avec les élèves justement sur Hannah Arendt, La banalité du mal, Stanley Milgram, et c'est donc mes élèves qui m'ont parlé de cette série en me disant qu'ils y avaient vu quelques échos, effectivement, comme vous. Mais par contre, alors les miens sont plutôt déçus de la série, m'ont dit c'est surfait, je les cite. Ils ont peut-être plus, enfin ils connaissent mieux que moi les séries coréennes et tout ça, et ils m'ont dit non, ça leur a pas trop plu. Mais pour le témoignage de Yann, qui disait que ce qu'on est capable de faire pour de l'argent, je pense que ça aurait été une question intéressante à traiter dans la série. Si, encore une fois, la vie même des candidats n'était pas en jeu au départ, parce que le héros principal, je le rappelle, il a quand même, juste avant que le jeu ne démarre, il a signé un papier où on va lui prélever ses organes vitaux. Donc, il doit gagner. Donc, du coup, la question se pose moins de savoir ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent, parce que pour lui, la question devient ce qu'on est prêt à faire pour sa vie. C'est pas pareil.
Il y a Ronan Crowe qui fait comme ça. Mais non, avec
moi j'ai vraiment un problème de positionnement. Mais c'est pas tant, en fait, c'est le succès de la série qui, je pense, change la perception qu'on en a. Mm. C'est-à-dire que, au fond, et c'est ce que disait votre auditeur très justement, il l'a dévoré et il y a aucune raison de ne pas dévorer cette série-là. C'est la perfection de la narration. Il y a des cliffhangers, c'est-à-dire des effets de surprise à chaque fin d'épisode qui donnent envie de voir le suivant. Il y a une esthétique dont on n'a pas parlé qui est vraiment ce que la fiction occidentale n'arrive plus à faire, c'est-à-dire de la mythologie. Vous rentrez dans la série et tout de suite il y a une mythologie, il y a des personnages, il y a une esthétique graphique qui est vraiment très impressionnante. Vous avez cité Candy Crush, c'est très juste. Ouais. Ce mélange entre l'hyperviolence et l'enfance, et il citait votre auditeur très justement Battle Royale par exemple, tout ce cinéma asiatique qui a justement réussi à garder son aspect mythologique, cynique, qui est capable de faire une fiction qui aujourd'hui, que le cinéma américain par exemple ne fait plus. Donc c'est peut-être ça aussi la force de cette série-là et des fictions asiatiques, et on parle des fictions sud-coréennes notamment, c'est-à-dire d'aller dans des territoires que la fiction occidentale ne... Le succès au cinéma en salle, c'est Dune en ce moment. Dune, c'est du minimalisme avec des gens qui font la gueule, il se passe pas grand-chose, vous voyez. Et là, tout d'un coup, vous avez de la surfiction. Et c'est ça qui marche. C'est-à-dire que quand vous êtes devant ça, c'est comme une sorte de feu d'artifice dramatique. La question, c'est le succès et... Peut-être que la morale et le rapport, on va dire, c'est de ce dont on parle depuis le début. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là? Ben, je sais pas, en fait, à la fin.
Marianne Chaillant, moi, je trouve ça intéressant que vos élèves aient été assez partagés et pas vraiment aimés, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est tous beaucoup trop vieux, en fait. Et au fond, effectivement, c'est interdit aux moins de 16 ans, parce qu'il y a du sang, il y a de l'hémoglobine, mais je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent. Comme le disait Ronan à l'instant, il y a une espèce de mythologie derrière, donc on est basculé dans autre chose tout de suite. Moi, ça me paraît extrêmement moins violent que le plus violent des jeux vidéo, par exemple. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais en tout cas, ça nous emmène dans une mythologie qui est tout autre. Est-ce qu'on n'est pas déjà trop vieux, en fait? Et c'est pour ça que c'est une histoire de cour d'école, au fond, cette histoire, non?
Je sais pas, écoutez, Yann parlait aussi de Game of Thrones, et j'avais peur de voir la série ce week-end. Et quelqu'un m'a dit, si tu as pu voir Game of Thrones, c'est rien. Si tu as pu voir la violence de Game of Thrones,
c'est assez juste. Moi, je me souviens c'est dans quelle saison? Oui. La scène du mariage, quatrième saison.
Oui. Les noces pourpres.
Bah, oui, je m'en souviens très bien.
Oui, le sacrifice de la princesse Shireen, la marche de la honte de Cersei, le viol de Sansa. Mais on a traversé tout ça, nous, les spectateurs de Game of Thrones. Mais il me semble, pour revenir à ce que disait Ronan tout à l'heure, que, en tout cas, dans cette série-là, la violence n'était pas gratuite. Il y avait tout de suite et de manière évidente un sens. Alors que je me suis vraiment posé la question du sens de cette cruauté dans Squid Game. Et j'ai eu l'impression, en regardant Squid Game, de voir la scène de la marche de la honte ou du sacrifice de Shireen en continu. Et il me semble d'ailleurs que le personnage à la fin, au dernier épisode, c'est pas un spoil, mais pose la question, mais pourquoi? Et c'était ma question. Enfin, pourquoi tant de violence? Ça vraiment, cette cruauté. Peut-être il y a une seule possibilité, qui est de basculer dans une lecture cathartique. C'est-à-dire que cette série fonctionne parce qu'on a tous souffert depuis 2 ans. On est plein de tensions et de pulsions refoulées. Pourquoi et on a besoin d'une bonne décharge de violence pour sublimer tout ça.
C'est intéressant parce que ce matin, Nicolas Demorand et Léa Salamé ont posé la question à Roselyne Bachelot, qui était là, et qui en a vu une critique simplifiée de la télé réalité. J'y pense parce que ça me renvoie à ce que vous disiez, Ronan, et je me dis qu'au fond, elle n'a pas forcément tort. Ça veut dire que nous sommes dans notre propre mise en abîme, en fait, à l'intérieur de cette série-là.
Marianne parlait très justement de catharsis, et c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'une fiction vient chercher chez le spectateur? Et peut-être que la catharsis ici, c'est la catharsis du spectacle lui-même. La question qu'on peut se poser devant cette série, c'est quelle jubilation on prend. Et le problème, c'est que, et c'est intéressant parce que ça va chercher la question de la cruauté du regard, le voyeuriste, la cruauté du spectateur, c'est qu'on attend les jeux, en fait. On attend de savoir quelle prochaine torture, et ça produit une excitation. Et cette excitation, elle devrait être condamnée, en fait.
Et alors là, je suis obligée de me flageller parce que vous avez tellement raison. Moi, je trouvais que c'était parfois très bavard, et je me suis surprise en train de me dire, bon alors c'est quand le prochain jeu? Et en ayant une certaine honte quand même à imaginer, bon alors c'est quoi le prochain truc, que ça nous fasse un peu...
Une jubilation du spectacle.
Exactement. Qu'est-ce que je fais, Marianne Chaillant? Est-ce que c'est grave?
Non mais j'avoue que moi aussi je me posais la même question que vous. Mais alors pour cette idée qu'on y verrait une mise en abîme de ce que peuvent faire les jeux télévisés, etc., je trouve, pour revenir au Hunger Games, pense que pour le coup, dans les Hunger Games, c'était vraiment ça, parce que les Hunger Games, c'est une émission qui passe à la télé. Dans Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, on a la même chose. On a un programme télévisé atroce, et l'héroïne s'adresse aux spectateurs en disant c'est vous les responsables, c'est pas simplement les producteurs, c'est vous. Mais là, il n'y a pas d'émission.
Non.
En fait, c'est pas une émission, c'est organisé par quelques VIP bizarres qui organisent ces jeux pour leur bon plaisir pervers, c'est tout.
Et implicitement, en même temps, les spectateurs, c'est nous. C'est-à-dire, et c'est là où pour moi, il y a quelque chose d'assez étrange sur l'iconographie des écrans. Il y a tout un travail sur les écrans, la photo, le personnage, les personnages sont pris en photo. Il y a quand même cette idée que la série, le regard dominant dans cette série, c'est le nôtre. Et c'est très intéressant parce que nous, spectateurs, et notamment, je pense que la trajectoire du premier épisode qui peut surprendre, qui est très long, un peu lent, où on découvre lentement ce personnage principal, il culmine dans une scène de violence qui est, à mon avis, le pivot. Soit vous rentrez dans la série et vous restez dans la série après cette scène, soit vous en sortez immédiatement.
Et c'est pour ça que je parlais de mise en abîme tout à l'heure, parce que au fond, les spectateurs qu'on voit dans Hunger Games ou qu'on voit dans Le Prix du danger dont je parlais tout à l'heure, qui date de 83, c'est nous, Marianne Chaillon. Et peut-être effectivement que c'est Renan Crowe qui a raison et que cette mise en abîme, c'est celle-là. Et c'est notre c'est notre manière à nous de regarder ces horreurs qu'on est en train de voir et que ce que nous dit le réalisateur, c'est vas-y maintenant, interroge-toi. N'interroge pas ce que je mets à l'intérieur de la série, mais interroge-toi sur ce que tu es en train de regarder.
Mais ce qui est étrange, c'est le marketing autour de la série. Parce que, en fait, normalement, la catharsis, elle devrait horreur et pitié, la purgation des passions par l'horreur et la pitié. Aristote, enfin, ça remonte il y a quand même très longtemps. La tragédie, donc on devrait être horrifié par ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'on voit apparaître en ce moment? Les gens veulent faire un Squid Game. Il y a donc Netflix qui a organisé à Paris un faux Squid Game. On peut s'habiller comme dans Squid Game. Ça veut dire que la catharsis...
Et on lèche des gâteaux pendant 5 heures.
La catharsis, elle est séductrice, elle est pas repoussante. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette fiction-là qui touche à une forme de cynisme. Et pour moi, et Marianne disait avec beaucoup d'humour qu'on en a tellement bavé pendant ces 2 ans qu'au fond, il y a une catharsis presque de violence. Mais je pense qu'il y a une catharsis de cynisme. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désespoir total qu'au fond, le Squid Game paraîtrait la seule logique à la société. Ça réenchante pas beaucoup le monde quand même.
Non, pas tellement. Ça fait même limite peur. Bonsoir Adèle. Adèle, bonsoir. On t'écoute Adèle.
Je voulais juste dire que moi ce qui m'avait plu aussi c'était surtout les plans et aussi l'esthétique de toute la série et les costumes, tout.
Eh ben parlons d'esthétique, merci Adèle, elle a raison, Renan Crowe, tout est dedans aussi, on parlait tout à l'heure de l'imagerie, la mythologie que ça donne, le côté à la fois Candy Crush et beaucoup de choses comme ça, c'est je disais tout à l'heure en introduction que c'était extrêmement léché, c'est vrai que c'est super léché cette série.
Mais c'est aussi la force du cinéma sud-coréen aujourd'hui, cette capacité à fabriquer des images, à fabriquer des iconographies, et on peut s'amuser à voir un peu de Casa de Papel avec ses costumes rouges, de voir un peu
que
de...
Que j'ai détesté.
Voilà.
Mais c'est à mon avis. Auto-spoiler, et il y a Tristan qui lève la main de l'autre côté de la vitre.
À mon avis, le même phénomène et le même positionnement, c'est-à-dire le rapport entre la politique et la série de genre, et qui, à mon avis, dans Squid Game est peut-être plus assumé et plus intéressant, mais cette iconographie, il faut lui reconnaître ça. C'est-à-dire qu'il y a des images sidérantes dans Squid Game, cette poupée qui se retourne pour jouer un 2-3 soleil, ce sont des images inoubliables, mais surtout, ce sont des images extrêmement pop. Et la pop culture, tout d'un coup, c'est aussi que tout est égal à tout. Et donc, tout d'un coup, ces images violentes, cette poupée, en fait, devient une sorte de symbole inoffensif qui redevient un symbole inquiétant et qui est à nouveau désinoffensivisé, si on peut imaginer ce mot-là, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous voyez, une espèce de jeu où aujourd'hui, la poupée est devenue un mème. Vous voyez, on la voit partout sur les réseaux sociaux. Moi, pour en avoir parlé avec mes étudiants, le succès de Squid Game vient des réseaux sociaux pour eux. C'est-à-dire qu'ils m'expliquaient à quel point la série était tellement présente, détournée, questionnée, amusée par les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, que forcément, ça les a amenés à découvrir la série. Et donc, ça nous montre aussi, peut-être que la place des fictions aujourd'hui, elle est dans nos vies, à travers nos applications.
Eric est avec nous. Bonsoir, Eric.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Alors, moi, je suis un petit peu étonné par les discours qui ont été faits par vos invités. Enfin, évidemment, il y a des choses que je trouve, avec lesquelles que je partage. Mais je suis étonné parce que à aucun moment on n'est évoqué la fin de cette série. Alors, je ne veux pas la spoiler, je ne veux pas la donner. Mais la fin est complètement immorale. Et à mon sens, elle vient complètement détruire tous les aspects qu'on peut supposer politiques de la part des auteurs, de dénonciation de telle ou telle chose. Parce qu'au fond, elle démontre un individu qui est devenu vicieux et pervers, puisque, bon, on connaît la fin, je veux dire, malgré l'argent gagné, voilà. Et donc, je trouve que ça peut être évoqué, alors que, pour moi, c'est l'aspect le plus raté de cette série, c'est-à-dire que, à la limite, Tout le reste peut être effectivement confondu, peut-être avec une certaine forme de dénonciation, une certaine forme de satire sociale, bon, bref, etc. On peut toujours lui prêter ce genre d'intention, mais dès qu'on aborde la fin, au fond, non, on est dans quelque chose qui se rapproche parfaitement du nazisme ou du fascisme le plus terrible, et on est dans une présentation de l'être humain, y compris de l'être humain bon et généreux, ce qui est le cas du héros, on va dire, sous un angle ben, d'un barbare et de quelqu'un d'absolument révoltant et répugnant. Donc voilà, je trouve que, encore une fois, la fin est tellement immorale qu'elle vient anéantir pour moi tout le reste de la série. Au-delà des aspects esthétiques et autres, ça tombe, ça laisse un petit goût, un arrière-goût de dégoût, justement. Vous voyez.
Merci beaucoup, Eric. Marianne Chaillon, là-dessus. Alors, deux choses. D'abord, le côté immoral.
Eh bien, je ne sais pas si Eric est toujours en ligne, mais peut-être parle-t-il du vieillard, parce que le héros, moi, j'ai limite trouvé l'inverse, c'est-à-dire que tout est bien qui finit bien. Le héros gagne, mais ce n'est pas lui qui tue son adversaire. Il gagne sans avoir à en passer par là. Il met le temps, certes, mais il finit par aller chercher le jeune frère, il finit par sauver la vieillarde. Et à la fin, il décide non pas d'aller voir sa fille, ce qui serait un cheminement personnel, mais donc égoïste. Il décide, on le voit se retourner, il va aller les chercher, hein, il va aller détruire ses organisateurs. Donc, il se transmue en chevalier qui va aller détruire ses méchants. Donc, je trouve au contraire que c'est tout est bien qui finit bien, Eric, pour le héros.
Puisque vous êtes encore là, Eric, c'était pas le vieillard votre top
pas
de l'immoralité.
Effectivement, c'est le héros et je suis absolument pas d'accord avec votre intervenante. Oui. C'est pas du tout la sensation que j'ai. Il renonce effectivement à aller voir sa fille. Il a cette carte entre les mains. Je le vois pas allant comme le pro chevalier blanc qui va aller combattre les ennemis. Il va aller reparticiper à un jeu et je le vois tout simplement. Sachant ce que ce jeu implique à tous les niveaux, il y va parce qu'il aime ça, ou quelque part.
C'est
carrément comme ça que je l'ai compris.
C'est intéressant.
Et c'est pour ça que je trouve immoral. Il est tout à fait, si je me mets à sa place, et je pense que la plupart des gens, si on se met à sa place, on va pas aller dans un jeu où on risque finalement, à tout moment d'être tué, où on va voir des gens avec qui on fait alliance, avec qui on est proche, on va les voir mourir, on va peut-être même être obligé de les tuer. Je veux dire, aller reparticiper à un truc comme ça, c'est l'absolue perversité pour moi.
C'est intéressant, parce que moi je l'ai pas vu du tout, je l'ai vu au contraire se mettre des habits de super-héros et retourner dans le jeu pour pouvoir mieux le dénoncer.
C'est très intéressant parce que je pense que les deux lectures sont possibles, et c'est, vous parlez d'immoralité, et parce qu'en fait il n'y a pas de catharsis. C'est-à-dire que, en fait, si le jeu nous montrait très précisément et très clairement comment cet homme devient finalement un monstre, on aurait, nous, un dégoût du personnage, et donc la série aurait quelque chose à dire. Et ça tient, à mon avis, un peu plus haut au dilemme final. J'ai vraiment beaucoup de mal à spoiler la série pour ceux qui écouteraient, donc il y a un dilemme final où, au fond, la série résout ce dilemme en trouvant une solution un peu moralisatrice, ou en tout cas un peu conciliante pour le spectateur. On aurait presque besoin que le personnage bascule. Et là, au fond, on a une sorte d'homme sans qualité, un personnage qui traverse le récit. Moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est le personnage du vieil homme, parce que au fond, quand on rentre dans la série, notre héros est extrêmement empathique avec lui, et la série vous dit quelque chose, que l'empathie, en fait, ça se retourne contre vous. Et moi, j'ai un vrai problème, là, pour le coup, d'immoralité avec ça, c'est-à-dire
mais
que...
Alors ça, c'est un truc de société coréenne, non, Renan?
Voilà. Oui, mais en tout cas...
Parce qu'il y a le respect des vieilles personnes, etc., et là, on dit, eh ben ça non plus, Screech, on n'en prend pas, et c'est lui qui sera le plus dégueulasse de la série.
Et c'est une forme de cynisme total, c'est peut-être pas immoral comme série, c'est profondément cynique, et votre auditeur parlait de dégoût. Je pense que si la série avait assumé ce dégoût-là, on aurait eu peut-être une grande œuvre radicale. Je citais Fight Club qui avait cette idée-là de la folie et du dégoût du monde. Là, il y a quelque chose qui est à la fois offensif et inoffensif en même temps, ce qui fait qu'on sort de là. Et c'est pour ça que je pense qu'avec Marianne, on a un peu du mal à résumer ce que veut dire cette série, c'est qu'on ne sait pas où elle va et ce qu'elle veut vraiment dire à la fin.
Et pardon, je vous ai coupé.
Allez-y, bien sûr.
Trois questions qui disent la même chose, en fait, de ce qu'on n'a pas abordé un peu sciemment d'ailleurs depuis le début pour les prendre d'un coup. C'est Annick qui nous dit que dans une école d'un quartier qui va bien, du 13e arrondissement à Paris, un enfant qui a perdu un 2-3 soleil a été traîné par les cheveux, mis à terre et tabassé par un enfant de CP. On a Bénédicte qui nous dit « Mon fils de 15 ans me dit qu'à l'école, il joue un 2-3 soleil et ils sont giflés en cas de perte au jeu. Et ça devient grave. Mon fils est au primaire, nous dit Maude, qui nous a ramené un mot dans le cahier de correspondance ce soir. Nous sommes confrontés depuis une semaine à des jeux violents dans la cour de récréation. Il semblerait que ces jeux viennent de la série Squid Game. Nous attirons votre attention sur le fait que cette série est interdite aux moins de 16 ans. Fermez les guillemets. Il me semble incroyable. nous dit Maud, de devoir faire passer ce genre de message auprès de parents d'enfants de 5 à 10 ans. Marianne Chaillant, d'abord là-dessus, que ce soit bien clair, oui, c'est très violent, enfin, et c'est interdit au mois de saison, textuellement. Et pourtant, oui, ceux qui sont les plus accros de ce genre, ils sont tout petits, comme les enfants de nos auditrices, hein, là.
Oui, c'est assez terrible de voir qu'ils n'en sont pas protégés. Voilà. Alors, loin de moi l'idée qu'il faille censurer l'art. Et pour nous, adultes, peu importe la violence, pour autant qu'on a choisi de regarder cette série, mais c'est vrai qu'il faudrait protéger... Moi, en tout cas, je l'ai regardée pour être des vôtres ce soir avec grand plaisir, mais ça a été difficile.
Ça a été une épreuve.
Mais
pas pour
vraiment
moi, pour le coup.
C'est étonnant, comme on parle d'une série phénomène qui est pas vraiment une partie de plaisir. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plus, là, on parle plus de la série, en fait. C'est-à-dire que l'objet fiction, il a disparu. C'est une sorte de phénomène médiatique dont les enfants entendent parler.
Exactement.
Par écho.
Dans ce qui se passe dans les cours d'école, on parle de 1, 2, 3 soleils sur TikTok. Oui. On parle pas de gamins qui ont regardé les 9 épisodes.
Exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'iconographie est restée et la fiction a disparu. Et donc, c'est là où il y a un vrai souci, un vrai problème. Alors, il faut quand même rappeler aux parents que sur Netflix, il y a une fonction qui permet, en fait, de filtrer aussi les contenus uniquement pour enfants. Donc on peut pas accuser Netflix d'exposer la série à tout le monde. Il y a une possibilité où on peut pas dire que c'est les enfants qui vont d'eux-mêmes sur Netflix. Il y a quand même cette idée que il y a cette possibilité là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le phénomène médiatique amplifie aussi, mais quelque chose qui est assez simple dans la série, qui est le détournement du jeu d'enfant. C'est-à-dire que le cynisme de la série, en fait, a des échos sur les enfants. C'est assez troublant. Après, il y a toujours eu ça. C'est-à-dire que, au fond, des séries qui font peur, des films qui font peur, on se joue à se faire peur. Il y a toujours quand même eu un peu ça. Là, ça reprend des proportions de violence assez étonnantes et assez déroutantes pour une série coréenne, d'autant plus.
Est-ce qu'on se dit, Marianne Chaillant, que, encore une fois, vous, les vôtres sont grands, vos élèves, mais est-ce qu'on se dit que ce sont des thèmes qui sont abordables finalement aux plus petits? Donc si on les voit se mettre des gifles dans la cour de l'école après 1, 2, 3 soleils, est-ce que ce sont des thèmes qu'on peut aborder avec eux, y compris ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de la série, ou est-ce que c'est trop jeune finalement
d'évoquer cette série avec eux?
D'évoquer en tout cas le fond, ce que ça dit du rapport à l'autorité, ce que ça cache quand même derrière, un peu en sous-texte quand même.
Moi je l'aurais pas abordé spontanément, mais vu que ça se diffuse déjà à travers ces réseaux sociaux, je pense qu'il faut effectivement en parler pour les accompagner face à ces images hyper violentes. Là on est obligé, mais de manière réactive, mais ça aurait été, je pense que c'est un objet qui est un peu trop violent pour en parler à ce public si jeune.
Il y a un besoin de recontextualisation, voilà, en fait. Mais vraiment, je pense que ça part de cette fameuse poupée qui est une image. Moi, j'ai vu la poupée avant de voir la série.
Je me disais,
qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est là? Qui est-elle? Je crois que c'était une publicité au départ. Et en fait, parce que cette iconographie et cette image, tout comme d'ailleurs les combinaisons rouges de la Casa des Papel, le masque de Dali, c'est des images marquantes, c'est des images qui vous imprègnent, et évidemment, les enfants sont attirés par ces images-là. Le problème vient pas tant de Netflix et de la fiction et de la série que des réseaux sociaux et du détournement et de la pop culture, en fait, qui détourne les images.
Bernard, bonsoir. Bernard. Est-ce qu'on a perdu Bernard?
Non, je suis...
Formidable, on vous écoute.
Non, mais voilà, je suis cinéaste, je voulais juste dire, j'ai pas vu la série, mais c'était juste pour témoigner de la violence des films coréens, qui sont des films excellents que j'adore, hein, qu'on a vu éclater chez nous en Occident avec Memories of Murder, du fameux Bong Joon-ho. Des films de Kim Ki-duk comme The Coast Guard, Time ou Entre deux rires avec des scénarios incroyables, ou Old Boy de Park Chan-wook, qui sont des violences inouïes, mais l'explication c'est que c'est des questions politiques, je veux dire, ils sont extrêmement déchirés avec la Corée du Nord, donc la violence est intrinsèque à tous ces films, qui sont d'autre part extrêmement bien réalisés, absolument excellents, c'est un très grand cinéma, mais c'est un cinéma très violent, donc c'est juste pour témoigner de ça, c'est quelque chose de récurrent dans le cinéma coréen. Donc j'imagine dans la série aussi, voilà, c'était juste un commentaire de ma part.
Et merci beaucoup Bernard, et c'est vrai Renan Crowe que oui, le cinéma coréen est violent et qu'il parle de sa propre société qui est une société
fracturée, évidemment,
qui est très violente. D'ailleurs, il y en a un aspect dans Squid Games avec la coréenne du Nord.
Bien sûr.
Également, c'est important comme passage.
C'est une cinématographie qu'on a un peu redécouverte d'un coup avec une palme d'or qui s'appelle Parasite, et où tout d'un coup, où il y a eu un focus médiatique. Mais votre auditeur a parfaitement raison de dire qu'il y a toute une tradition d'un cinéma sud-coréen qu'on ne voit pas, évidemment. On a vu Oldboy de Park Chan-wook, on a vu des Kim Ji-woon. Il y a bientôt à Paris un festival du cinéma coréen. Il y a un nombre de films très ambitieux qu'on ne voit pas et qui n'arrivent pas chez nous. Et la question que ça pose, moi j'ai par exemple une camarade enseignante qui enseigne l'histoire du cinéma sud-coréen à l'université, Emmanuel Spadacenta, et elle leur explique justement pourquoi ce cinéma est profondément politique et esthétique en même temps. Et donc c'est vraiment un cinéma qui, on parle de soft power un peu aujourd'hui, et c'est cette question-là, c'est-à-dire au fond derrière Squid Game, il y a un peu la terreur de réfléchir à est-ce qu'on est en train de basculer d'un modèle, on va dire plutôt américano-centré, à un modèle asiatique et plutôt coréen. Eh ben, c'est une vraie question, et en même temps se poser la question, moi plutôt en tant que professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la question de qu'est-ce que ces fictions proposent que le modèle américain n'arrive plus à proposer.
Sauf que trop tard, parce que à cause du succès de Squid Game, on a vu que Netflix avait été parti pour 500 millions de dollars, je crois, d'investissement dans de la production de contenu qui sera coréenne. Moi, j'ai vu qu'il y avait même des gens qui prenaient des cours de coréen en ce moment.
Mais
donc,
tant mieux.
Voilà. Mais donc, il y a un phénomène qui est en train de se jouer, qui vient bien au-delà même du cinéma coréen et bien au-delà peut-être aussi de la série, j'en sais rien, mais il y a tout ça à la fois, il y a une espèce d'engouement sud-coréen aujourd'hui qu'on n'a pas vu venir en fait.
Bah, qu'on n'a pas vu
que
venir.
Que les cinéastes, que les cinéphiles connaissaient, oui, mais
que,
les autres.
Et que les observateurs de la pop culture ont vu apparaître. La K-pop, ça fait quand même quelques années. Les BTS, hein, ce fameux groupe, il y en a plein d'autres, mais les BTS, et en même temps, les BTS, le groupe, si on a une observation un peu extérieure, on va dire, ils proposent une starification des corps, une perfection technique, quelque chose de l'ordre du divertissement absolu, du spectacle absolu. Voir un clip de BTS, ou un concert de K-pop, c'est assez fascinant de voir à quel point c'est quelque chose d'un modèle presque perfectionniste du spectacle. Et ça, encore une fois, on peut le juger politiquement, s'interroger, mais en termes d'efficacité, et votre premier auditeur le disait, vous rentrez dans Squid Game, si vous aimez l'art de la série télévisée, vous irez jusqu'au bout.
Eh ben voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on ne sait pas si on vous y a emmené ou si on vous a au contraire amené dans l'autre sens. Vous ferez exactement ce que vous voudrez. Je voudrais vous remercier vraiment tous pour vos appels. Et Renan, vous aussi, et surtout vous, Marianne Chaillon, parce que vous avez regardé la série à cause de nous. Et on s'excuse. La prochaine fois, on essaiera de vous faire regarder quelque chose de plus festif.
Je suis heureuse d'avoir pu jouer à 1, 2, 3 soleil étant enfant sans avoir vu ces scènes au préalable.
Eh ben, écoutez, d'avoir léché des biscuits aussi pour le plaisir, sans que ce soit tragique à la fin. Merci vraiment à tous les deux.